Vous écoutez
RMC.
Messieurs, on parle maintenant des nouveaux modes de consommation du football avec Arnaud Simon, fondateur d'In and Out Stories. Bonjour et bonsoir, pardon, Arnaud Simon.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Merci d'être avec nous dans la soirée. Stéphane Guy, Kevin Diaz et Fred Piquion sont à mes côtés. J'ai une question très simple, parce que c'est pas évident de décrire votre activité de manière très concrète. En quoi consiste In and Out Stories?
Alors, je vais essayer de faire d'être clair. En fait, moi, j'accompagne les ligues et les fédérations dans deux enjeux essentiels aujourd'hui pour le sport. Un, c'est l'expérience du direct, l'expérience du produit. C'est-à-dire la façon de le filmer, c'est-à-dire les règles, c'est-à-dire le format, pour gagner en intensité, en interaction, en immersion. Je pense qu'on y reviendra, parce que c'est aujourd'hui extrêmement important, notamment pour accrocher les plus jeunes générations. Et bien sûr, le mode de distribution de ces contenus, les modes d'abonnement. Comment faire en sorte que on se retrouve pas avec du streaming illégal, avec du système IPTV et des générations qui sont en train, une jeune génération qui est en train finalement de décrocher des habitudes qu'avaient les générations précédentes.
Alors, vous êtes l'auteur, donc, Arnaud, d'un article très intéressant qu'on peut trouver sur votre LinkedIn, votre page professionnelle, intitulé « Regarder du sport en direct est devenu l'exception et non plus la règle ». Et c'est vrai que dans votre article très, très approfondi, les chiffres et l'audience de cette dernière saison le confirment.
Oui, absolument. Et il faut faire la différence entre, je dirais, la vie ordinaire et l'exceptionnel. Bien évidemment que devant, vous parliez de France-Suisse, devant un grand événement comme ça, un match de l'équipe de France, un Nadal Federer, vraiment des grands événements fédérateurs, on va tous se retrouver devant le direct. Mais dans la vie quotidienne, ce que j'appelle la vie ordinaire, on n'a plus ce temps-là. Et aujourd'hui, il y a trois enjeux extrêmement importants. C'est-à-dire, on manque de temps, on a besoin d'accès et on a besoin d'une expérience renouvelée. Manque de temps, je vais pas trop en rajouter, mais... aujourd'hui, la plus jeune génération, elle passe 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Vous avez plus de 100 millions d'adolescents qui passent 70 heures par semaine sur Twitch, la plateforme où vous retrouvez du gaming, de l'e-sport. Rendez-vous compte que vous avez 300 millions de personnes qui passent plus d'une heure par jour sur Netflix. Et je ne parle même pas de Disney+, d'Amazon Prime. Donc vous voyez bien que mécaniquement, en fait, on a moins de temps de passion disponible pour consommer du sport en direct. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est de plus en plus sélectif. Les très grands événements, évidemment, on veut être là. Tout le reste du temps, on va consommer le sport de manière différente, avec des résumés, des extraits, ce qu'on appelle du presse direct.
C'est ce que vous appelez,
direct,
Arnaud Simon, du snacking, en fait, hein. Une consommation de snack.
C'est du picorage. Et c'est pas un jugement de valeur. C'est que juste mécaniquement, on n'a plus le temps, comme avant. De consommer du sport en direct régulièrement. C'est pour ça que je dis ça.
On a plus le... Oui, c'est ça la vraie question, Arnaud. C'est est-ce qu'on n'a plus le temps et est-ce que c'est parce qu'on a une telle offre disponible qu'on choisit ou est-ce qu'on est moins attiré par le produit foot en particulier?
Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a un peu des deux. Et il y a un problème de manque de temps, on en a parlé. Et puis, il y a un problème aujourd'hui que le contenu foot, il est en concurrence avec plein d'autres contenus. Et que là, on peut se poser la question de savoir, est-ce que j'ai accès facilement aux plus grands matchs? Donc, on va en discuter, je pense, c'est les modes d'abonnement, le prix, etc. Et est-ce que l'expérience que me procure le match en direct est suffisamment intense et engageante pour que j'adore dans un match, on va dire, ordinaire? Ça, c'est des vrais sujets.
Vous parlez, alors, parce qu'il y a plusieurs générations, hein, vous dites que les Français depuis 60 ans savent encore prendre le temps de regarder un match de tennis ou de football, ce qui nous réunit ici, en intégralité. En revanche, le vrai souci, c'est la génération qui arrive, la Gen Z, comme on l'appelle, 13-24 ans, on en connaît tous ici, soit nos enfants, nos neveux, qui ne sont plus capables de regarder un match pendant une heure et demie, mi-temps comprise, un match de foot. C'est elle, c'est cette génération qu'on risque de perdre, en tout cas, devant le spectacle football, Arnaud Simon.
Oui, il y a un risque de décrochage, mais je pense que plus que la durée, parce qu'aujourd'hui, cette génération est capable de rester plusieurs heures devant un match de League of Legends, d'e-sport, par exemple.
Exactement.
C'est pas tant la durée, c'est ce qui se passe pendant cette durée.
Ou s'enfiler 5 séries à la suite,
oui,
sans problème, quoi.
Exactement. Le problème, ce qui tue l'amour aujourd'hui dans le sport, c'est les temps faibles. Ça, c'est la grosse bataille. Et je vais juste vous citer un exemple, et je pense qu'on va en débattre. l'avare. Bon, je juge, personne peut juger ici. Enfin, si on peut discuter de savoir si c'est pertinent ou pas, cette avancée technologique qui permet donc d'avoir un jugement a priori plus fiable de l'arbitrage. Le problème, c'est que l'avare a multiplié les temps faibles dans un match. Vous pouvez attendre 2 jusqu'à 3 minutes pour savoir exactement ce qui se passe. En plus, en tant que spectateur, vous êtes un peu exclu parce que vous n'avez pas accès aux mêmes images que les images qu'il y a dans le car. Donc tout ça, ça crée des temps faibles et qui sont particulièrement nocifs pour ce qui est de l'engagement des plus jeunes générations. C'est juste un exemple.
Kevin.
Oui. Bah, moi, j'ai lu votre article aujourd'hui à Arnaud. D'ailleurs, j'en ai parlé à Nicolas parce que je l'ai trouvé exceptionnel de lucidité et de précision. Il y a deux choses, comme vous disiez. Hein. Selon moi, il y a cet effet, bien sûr, comme disait Stéphane aussi, de rareté. Pour moi, les événements, ça doit, il va quand même avoir un peu de rareté et l'abondance, bah, comme pour tout, l'abondance de biens, voilà, on en vient à ne même plus pouvoir se concentrer tellement on voit de matchs, tellement on voit de choses.
Ou ne pas savourer l'événement parce que c'est un événement.
Exactement. Ensuite, il y a la qualité du produit. Alors certains vont vous dire, ah, moi ce qui m'intéresse c'est le résultat, on a souvent ce débat là ici dans l'after. D'autres qui vont dire, oui mais attention, le contenu c'est aussi ce qui fait à des gens s'attacher à une histoire même sans gagner. Parce que certains vont dire, oui mais moi pour m'attacher à une équipe faut qu'elle gagne. Et d'autres vont dire, ah oui mais non, moi ce que fait Bielsa avec Leeds, moi ça me fait m'attacher à mon club et même s'ils sont restés en championship la première année, je les ai aimés encore plus. Tu vois, donc ça c'est aussi une histoire importante. Après, il y a ça, c'est un sujet qui est long, mais il y a aussi une déconnexion avec les salaires, avec des montants qui sont complètement déraisonnables et les gens, eh ben c'est démago ou pas. Mais il y a un moment les gens,
je suis pas sûr que ça peut aussi exciter certains.
Ouais, mais il y a un moment, il y a une certaine génération qui est déconnectée avec ça. Moi, je le pense en tout cas.
Déconnectée, mais ça vend du rêve aussi.
Et pour finir, moi et ça c'est une question que j'ai pour Arnaud qui travaille donc avec ces fédérations. Est-ce que les dirigeants du football français ou même européen sont conscients de ces problématiques, ou est-ce que ce que j'appelle à mon petit niveau, est-ce qu'ils nous font le coup de ce que font certains politiques, pas tous hein, mais certains politiques avec le réchauffement climatique? On sait que ça arrive, mais on veut surtout pas prendre les mesures parce que de toute façon on sait pas comment faire et on pense que les gens vont pas les accepter.
Alors oui, il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a parfois un manque de lucidité par rapport à ce qui se passe. Et on se dit, on met ça sur le dos de la crise du Covid ou autre. Sauf que ce sont des éléments structurants. Il y a parfois un déni. On ne veut pas le voir. Ou on pense que le sport est hors sol, en fait. Oui. Qu'il est pas, qu'il sera là pour toujours, qu'il n'a pas besoin d'évoluer. Il y a quand même Adam Silver, le patron de la NBA, qui est quand même NBA, c'est quand même un peu les meilleurs de la classe en plein sujet.
Bien sûr.
Qui dit aujourd'hui, on fait constamment évoluer nos règles. Ils ont lancé, par exemple, le Target Score dans le Money Time pour le All-Star Game de NBA, parce qu'il dit il faut qu'on soit sans arrêt en évolution pour satisfaire les nouvelles générations.
Est-ce que c'est aujourd'hui j'ai pas bien compris où est-ce que c'était le target score dans le Money Time.
C'est-à-dire qu'ils ont un score à atteindre pour garder l'intérêt pour le All-Star Game qui normalement se joue que dans le dernier quart-temps, dans les 3 dernières minutes quoi.
D'accord.
Ouais, ils considèrent que le Money Time, qui est pourtant un moment intense de basket, en fait, on peut faire exprès de faire des fautes. En réalité, quand on est en avance, pour garder l'avantage. Ah, donc, ils veulent un peu casser ça. Donc. Mais c'est intéressant de voir qu'ils sont en perpétuelle évolution. Là où je trouve qu'en Europe, en fait, chaque évolution de règle, ça prend un temps fou.
Et une remarque, Arnaud, sur ce que vous disiez par rapport à la VAR. Parce que ce qu'on a constaté sur l'euro précisément, c'est qu'il y avait très peu d'appels à la VAR et c'était quand même très rapide, beaucoup plus rapide qu'en championnat. Mais à contrario, on a aussi constaté qu'on n'avait plus l'image. C'est-à-dire que le téléspectateur n'était plus associé à l'essai arbitral. On l'avait qu'après coup, une fois qu'elle était prise. Alors que, en Ligue 1, on revoit les ralentis en même temps que les arbitres. Donc, est-ce que vous pensez que les dirigeants de l'UEFA ont intégré ce genre de problématique dans la gestion, par exemple, de la VAR à l'Euro?
Alors, c'est possible qu'ils aient passé des consignes aux arbitres. Après, je trouve dommage qu'on puisse pas voir les images. Je pense que, On est responsables, on est capable de d'appréhender ce qu'on nous montre. On a besoin de comprendre. Je trouve cette idée que les arbitres aient des micros, là aussi, on en parle depuis très longtemps, mais ça fait très longtemps que ça devrait être fait. L'arbitre doit être équipé, évidemment, parce que ça peut permettre encore une fois d'être un peu plus en immersion, probablement aussi. Ça peut, alors ça, je vous pose la question, est-ce que ça peut améliorer le code de conduite aussi?
Bien sûr. Mais Arnaud, je ne sais pas si vous travaillez avec la LNR, la Ligue nationale de rugby, mais au niveau du rugby, Honnêtement, ils ont fait tout ce qu'on dit là.
Longtemps déjà
ils montent les images, ils montent les arbitres qui réfléchissent, qui parlent ensemble pour le VAR.
T'as raison, c'est intéressant.
L'arbitre a un micro sur le terrain.
Parce
qu'il y a quand même des sports qui essaient d'aller dans le bon sens.
L'évolution du jeu rugby est aussi beaucoup moins, enfin, de mon point de vue, moi, je suis pas du tout un spécialiste de rugby, mais ça me semble moins spectaculaire que ce que fut le rugby de notre enfance. Quoi.
Ça c'est la vidéo, c'est
l'évolution des athlètes également.
C'est les athlètes qui sont mieux préparés, les staffs qui sont mieux préparés.
Juste une chose, parce qu'effectivement, ce qui ressort souvent dans votre article, c'est que aujourd'hui, on manque de narration. En fait. On a besoin de narration plus qu'avant, peut-être. Il faut nous accompagner, nous donner la main encore plus pour apprécier le spectacle qu'est le sport, sans dénaturer son essence. Qu'est-ce qu'il y a comme solution pour rendre ce sport spectaculaire désormais ? On sait que, moi je me rappelle gamin, quand je regardais Canal, il y avait parfois des caméras dans les vestiaires. À la mi-temps des matchs. Parfois,
exactement.
On entendait des entraîneurs qui parlaient à leurs joueurs. Parfois, au bord du terrain. Mais plus on a avancé, plus la distance s'est créée finalement entre l'expérience téléspectateur spectacle.
C'est bâché aux entraînements.
Et étonnamment, moi ce que je trouve incroyable, c'est que.
Il dit Fred, c'est important. Les entraînements.
Les entraînements.
Voir que tu vois, t'as des mecs qui venaient nous voir nous tous les jours à l'entraînement.
C'est clair.
Même des fois des retraités. Et les mecs qui ont vu des trucs travailler à l'entraînement.
Oui, mais là, les gars.
Qui le voient. Non, mais attends, mais ça c'est.
Non, mais là, on parle
ça,
de la télé.
Vraiment.
Mais t'as raison. On l'a déjà fait.
Mais quand tu vois la télé, ce que t'as vu ton équipe, elle a travaillé, un coup de pied arrêté qui se reproduit. C'est des trucs où tu vas t'attacher. Tu vas voir. Tiens, ce que j'ai vu à l'entraînement. Est-ce que ça va? Ça, je te parle. Ça, c'est une petite niche de gens qui ont la possibilité d'aller à l'entraînement. Mais c'est un exemple de la proximité que tu pouvais avoir.
Ça, c'est un autre sujet, Kevin. Là, je te parle du téléspectateur, pas forcément du fan.
Là, il y a une révolution culturelle à faire dans le foot. Il y a une révolution culturelle, Arnaud, à faire dans le foot parce que, par exemple, il y a un truc qui m'a complètement, encore une fois, pendant cet euro, catastrophé, c'est que Deschamps, avant le France-Suisse, donc change de système de jeu, et c'est pas rien de changer de système de jeu dans un sport comme le football, surtout celui qu'il a adopté contre la Suisse. Et pour ne pas, visiblement, que les journalistes voient des choses à l'entraînement, il n'a pas été répété. C'est-à-dire qu'il y a eu une seule séance d'entraînement à huis clos pour le répéter, pour pas que les journalistes, ce qui est contre-productif, y compris dans le résultat final. Bon,
Arnaud,
mais c'est un sujet sans doute.
Bah ouais, mais c'est un sujet, Guy, mais c'est important parce que les entraîneurs, tous les, Rocky. Stéphane, parce que tous les entraîneurs aujourd'hui, j'ai l'impression, ils veulent tout cacher. Mais le système.
Une frilosité hallucinante.
Mais le système de jeu.
Ce qui est très différent de la NBA, par exemple.
Oui, mais la formation, tu la connais. Les systèmes de jeu, on les connaît. Comment les contrer, on le sait aussi. Donc pourquoi, avant, on donnait souvent les entraîneurs.
Parce qu'il y a beaucoup plus de médias désormais, de commentaires, de déclarations.
Quand vous discutez avec les présidents avec les responsables des ligues, des clubs, etc. Arnaud, vous avez l'impression que c'est un discours qui peut passer ou pas du tout?
Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer là. Ils comprennent bien qu'il va quand même falloir bouger. Ce que vous disiez sur l'accès au vestiaire et des caméras, c'est extrêmement parlant, effectivement. En fait, là où le foot a de plus en plus fermé ses portes, vous citiez la NBA, ils ont fait exactement l'inverse.
Oui.
C'est-à-dire que vous pouvez même avoir des accès de journalistes dans les vestiaires. Alors, tout ça est quand même réglementé, cadré, mais n'empêche, ils sont tout le temps cette question de se poser comment l'expérience que je propose pour celui qui est devant l'écran peut être plus sympa, comment je peux avoir accès à un certain nombre de choses, comment je peux avoir le briefing du coach dans les vestiaires, avant le match, à la mi-temps. Tout ça, c'est de l'intensité qu'on crée.
Oui,
et
oui.
Le foot, petit à petit, c'est surprotégé, c'est un petit peu aseptisé.
En Europe, en tout cas, parce que, pardon de te couper, mais moi, j'ai fait quand même pratiquement une saison et demie en MLS. Et comme tu dis, ils rentraient dans les vestiaires même à la mi-temps, il y avait des caméras.
Parce que c'est
à la fin du match, tu pouvais répondre l'autre, il était en slibar, c'est pas grave, il était en train de t'interviewer et ça c'est vrai.
C'est le cas, mais moi ce qui me sidère un petit peu, si je m'engage un peu dans ce débat, Arnaud Simon, merci d'être avec nous. C'est que les présidents de clubs qui réclament toujours plus d'argent dans leur caisse en droit télé devraient prendre conscience que ça va aider leur avenir économique en ouvrant un peu plus également, en créant une histoire autour de leur club.
De quelle génération sont ces présidents?
En favorisant le spectacle et la télévision.
Mais ces générations, ils connaissent.
Mais non, mais
je te parle même pas de Twitch, je pense qu'ils connaissent même pas YouTube.
Ils sont
déjà.
Pas idiots non plus, Kevin. Ils sont
pas
idiots non plus.
C'est pas une question d'être idiot, Nico, c'est une question de génération. C'est des gens qui viennent d'avoir un smartphone depuis 3-4 ans. S'ils peuvent pas comprendre qu'ils connaissent le smartphone par leurs petits-enfants, mais c'est peut-être pour certains par leurs enfants.
On va prolonger.
Il y a un problème aussi de dirigeants qui, est-ce qu'ils sont connectés avec la réalité de leur public et de leurs nouveaux spectateurs.
Il y a des gens comme Arnaud Simon, et
ils ont beaucoup à gagner effectivement. On va prolonger avec vous Arnaud Simon, bien sûr, le débat va s'étendre parce qu'on a encore plein de questions intéressantes. Espérons-le, que je suis présomptueux à vous poser, à Arnaud, avec Stéphane Guy, Fred Piquionne et Kevin Diaz. À tout de suite.